Ce matin, j'aimerais tourner dans un des livres les plus petits de la Bible. C'est l'épître à Philémon. Ça se trouve juste avant l'épître aux Hébreux. J'aimerais qu'on parle ensemble du thème du pardon que l'on trouve dans cette épître. John Nieder et Thomas Thomson ont écrit sur le pardon. Ils ont dit: pardonner, c'est écrire en gros caractères sur une facture, ne doit plus rien. Pardonner, c'est frapper le marteau dans une salle de tribunal en déclarant non coupable. En fait, quand on pardonne réellement, on déclare que la personne qui nous a fait du tort ne doit plus rien, qu'elle n'est plus coupable, qu'on ne lui en veut plus. Alors pour beaucoup de personnes, c'est de la folie. Ils pensent qu'on est faible quand on pardonne, et qu'on est fort quand on refuse notre pardon. Et c'est pour ça que notre société est remplie de rancœur, de colère, d'hostilité. Alors que dit la Bible sur le pardon? Un chrétien doit-il demander pardon? Est-il censé pardonner? Comment peut-il réconcilier d'autres personnes entre eux? Voilà trois questions qu'on va se poser ensemble ce matin. Alors, je vous invite à tourner, si ce n'est pas déjà fait, dans l'épître à Philémon. Qui se trouve donc juste avant Hébreux. Et avant, on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier parce que tu nous as accordé ton pardon, parce que tu nous aimes d'un amour si grand, si infini. Nous te disons merci. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Aide-nous à aimer, Seigneur, comme tu nous aimes, et à pardonner comme tu nous as pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui étaient la semaine dernière, j'ai fait sur l'amour et j'ai trouvé que ce matin, sur Philémon, c'était une bonne continuation par rapport à ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. Épître à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Je redésirais le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors je sais que pour pas mal de monde ici ce matin, c'est peut-être la première fois que vous lisez cette épître. Alors, elle est peut-être un peu étrangère. Alors ce qu'on va faire, c'est aller en détail, essayer de bien comprendre cette épître et c'est de voir comment est-ce qu'on peut vraiment mettre ça en application dans nos vies par rapport à ce que nous voyons ici. On va relire l'introduction. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit qui c'est qui a écrit cette lettre. C'est Paul, qui est en ce moment-là prisonnier. Il est prisonnier. Des fois, souvent dans ses lettres, Paul se présente comme apôtre. Ça montre en fait son autorité, sa légitimité, et ça veut dire, bon, écoutez ce que je dis. Mais cette fois, il se présente comme prisonnier. On voit ici qu'il ne dit pas, voilà, fais ce que je dis, mais plutôt qu'il va demander gentiment, vraiment avec douceur, à un ami. Voilà. Alors, les destinataires, on voit que c'est Philémon. Il y a d'autres personnes qui sont nommées Aphia, Archippe. Voilà. Mais en fait, on voit plutôt dans cette lettre qu'il y a surtout une personne qui est destinataire, et c'est Philémon. Comme il dit, je rends continuellement grâce, faisant mention de toi dans mes prières. Donc il y a une personne qui est destinataire, c'est Philémon. Les autres reçoivent aussi la lettre, mais je dirais c'est un peu comme quand on voit un email et qu'on met des gens en copie. C'est pour que les gens soient informés, c'est ça, qu'ils soient aussi au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent aussi agir dans la réconciliation qui va avoir lieu dans cette lettre. Alors, on va découvrir de quelle réconciliation on parle au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'Épître. On voit déjà, versets 4 à 7, le caractère de Philémon. Déjà, on voit Paul qui prie. Pour Philémon, qu'est-ce qu'il dit sur Philémon? Il rend grâce, il remercie Dieu parce que c'est quelqu'un qui est vraiment fort dans sa foi en Jésus. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les autres chrétiens et qui a même calmé les inquiétudes de nombreux chrétiens. Merci pour la lumière. Ça fait plaisir tout d'un coup. Voilà la lumière qui est. Donc on voit vraiment quelqu'un qui est impliqué dans l'église, qui a beaucoup d'amour. Voilà, dans cette personne de Philémon. Alors, on arrive à la demande de Paul à Philémon. On va lire quelques versets. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Donc là, dans cette lettre, Paul a déjà fait sa salutation, sa bénédiction. Les louanges de Philémon, maintenant, il apporte la demande. Et c'est une demande qui se fait au nom de l'amour. Pourquoi? Il dit aussi que, bon, Philémon a de quoi avoir compassion de lui, parce qu'il est un vieillard. Bon, un vieillard à cette époque, c'est pas un vieillard à notre époque. On peut dire qu'à l'époque, peut-être, Paul, il avait 60 ans. Bon, à notre époque, 60 ans, c'est pas tellement vieux. Hein. C'est pas tellement vieux. Voilà. Donc il lui parle de quelqu'un, Onésime. Et plus tard on va voir qu'Onésime est en fait l'esclave de Philémon. Il parle de quelqu'un qu'il a amené au Seigneur alors qu'il se trouvait en prison. Ben, Paul il arrive jamais, hein. Ça continue tout le temps, ça continue d'annoncer l'évangile même quand il est en prison. Il a amené Onésime à la foi. Onésime qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile à Paul et à Philémon. Alors pourquoi il était inutile? Tout simplement parce qu'Onésime il s'est enfui. En fait, on voit dans l'épître à Colosse, aux Colossiens, qu'en fait Onésime était l'esclave de Philémon et qu'ils habitaient à Colosse. Donc là, on est à Rome. Paul est emprisonné à Rome, donc c'est pas au même endroit. Donc on a Onésime qui s'est enfui loin de son maître. Donc évidemment, il est inutile pour son maître. Et peut-être même qu'il a volé quelque chose, parce que quand il faut voyager et que t'as pas un rond, c'est un peu compliqué. Et voilà qu'il est inutile à son maître étant loin. Mais maintenant, il est utile auprès de Paul. On pense qu'il assiste Paul en prison. Il lui lave ses vêtements, peut-être il l'aide à envoyer ses lettres, comme là il va amener la lettre à Philémon et aux Colossiens. Voilà, il l'aide de différentes manières. Il est un soutien moral pour Paul. Donc il est utile même à travers, on va dire, Philémon, parce que Philémon peut aussi apporter une aide à Paul en prison. Il dit, je te le renvoie à lui une partie de moi-même. Ils sont devenus tellement proches que c'est comme si vraiment Onésime faisait partie de son corps lui-même. Tellement qu'ils sont liés d'amitié, cette communion profonde et fraternelle vraiment entre chrétiens qu'on peut voir. Il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. En fait, que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. En fait, Paul, il aurait bien aimé garder Onésime, parce qu'Onésime, c'est vrai qu'il assistait en prison, il était avec lui, il le soutenait, il lui faisait beaucoup de bien. Mais il dit, ça marche pas, parce qu'en fait, c'est l'esclave de Philémon. Si je veux vraiment voilà, faire ce qui est juste, il faut que je le renvoie à Philémon, mais qui m'a été très utile ici. Voilà. En fait, ce qu'on sait à l'époque de l'Empire romain, c'est que un esclave en fuite, il risquait gros. Vraiment gros. En fait, un esclave fugitif pouvait être sévèrement fouetté, marqué au visage, enchaîné, contraint à porter un collier en fer autour du cou ou avoir les jambes brisées. Il pouvait être aussi vendu pour travailler dans des mines ou même être condamné à mort. Voilà ce qui aurait pu se passer avec Onésime. Donc il risque gros, Onésime. En fait, sa fuite peut lui valoir de mourir, d'être condamné à mort. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. En fait, le Seigneur, enfin, ici on voit vraiment la souveraineté de Dieu. D'un mal se passe un bien. Onésime, qui s'enfuit, qui manque au devoir de son maître, qui s'enfuit, donc un mal, et je ne sais pas comment il trouve Paul. Paul l'amène au Seigneur dans la prison, et là, Onésime est transformé. C'est un nouvel homme, on va dire. Et voilà une autre, on va dire, notre raison de bien accueillir son esclave. Il dit au verset 17, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Donc on voit ici vraiment la demande de cet épître, accueille favorablement ton esclave fugitif. Reçois-le comme moi-même. Je sais que tu m'aimes. Je sais que moi, tu me recevrais vraiment avec des grands honneurs. Alors fais pareil pour ton esclave. Pardonne-lui. Oublie la faute qu'il t'a faite. Enlève la dette qui te doit. Si tu as fait quelque tort ou si tu te dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Donc Paul, il dit, bon, si tu te dois quelque chose, je suis prêt à payer. Mais que lui n'est pas à payer. Bon. Ça, c'est vraiment une marque d'amour. Et là, on voit aussi le fait que Paul, il est agent de réconciliation. Vraiment, entre deux personnes, pour qu'ils soient réconciliés et trouvent la paix entre eux. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je périne pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Ok. On pense qu'en fait, Philémon en devait une à Paul. Pourquoi? Peut-être parce que Paul l'a amené au Seigneur. C'est ce qu'on penserait. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Sans comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Donc là, Paul, il a vraiment confiance que Philémon va répondre positivement à sa demande. On a vu quand même au début de l'épître que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les autres chrétiens, qui a même, on va dire, calmé les inquiétudes des chrétiens. On ne sait pas comment, peut-être a-t-il pris soin des pauvres ou autre chose. Donc c'est quelqu'un avec beaucoup d'amour. Donc Paul, on va dire, a vraiment confiance que Philémon va pardonner à son esclave. Pourtant, c'est pas facile, vous savez. Parce que Philémon, donc, avait cet esclave qui était avec lui. Bon, esclave, ça coûte pas si cher que ça. Il est parti. Donc, vous imaginez quelqu'un qui travaille pour vous. Je sais pas, vous êtes patron, qui travaille pour vous pratiquement gratuitement. Et il s'en va. Il part pendant un an ou deux ans comme ça. Vous imaginez le manque à gagner? Alors, on est peut-être dans du 20 000 ou 30 000 euros. Donc, en fait, Paul est en train de dire à Philémon, pardonne-lui ces 30 000 euros. Pas forcément facile. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. La foi de Paul, qui croit vraiment la puissance de la prière et qui ne restera pas, il pense ne pas rester dans sa prison. Ce qui est beau aussi à la fin, c'est quand Paul va citer les noms. On se dit, oh, c'est juste des salutations de diverses personnes. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a Marc dedans. Il donne les salutations de Marc. Pourquoi est-ce que c'est beau? C'est parce que Marc était avec Paul pendant son voyage missionnaire et que Marc les avait abandonnés. Et on voit aussi ici qu'il y a une réconciliation entre Paul et Marc. Paul a pardonné à Marc. Alors, pour nos vies, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette épître à Philémon? Alors, j'aimerais partager en trois parties les applications pour aujourd'hui. Première chose, c'est demander pardon. On va dire pardonner. Et puis réconcilier les autres. C'est trois aspects qu'on trouve très bien dans notre épître. La première, c'est demander pardon. On a parlé d'Onésime. Onésime, pas facile pour lui de revenir vers son maître après tout ce qu'il lui a fait. Après tout cet argent qu'il lui doit. Pourtant, Onésime, il va prendre ses responsabilités. Il va amener cette lettre à son maître. Et puis il va se présenter avec lui. Il va se présenter à lui. Alors, c'est vrai que des fois, demander pardon, c'est pas facile, hein. Il faut de l'humilité, il faut du courage. Mais lui, Onésime, il l'a fait. Pourtant, c'était pas facile. Je pense que dans ce cas-là, c'est un bon exemple pour nous tous. D'humilité, de courage, de demander pardon. Ça vaut la peine. C'est terrible quand on vit des conflits non résolus dans nos vies. Ça vaut la peine de les résoudre, d'être en paix les uns avec les autres. La deuxième chose, c'est accepter de pardonner. Bon, on a vu déjà ce que Onésime avait fait à Philémon, tout cet argent qu'il lui devait. C'est vrai que c'était pas facile pour Philémon, mais moi je suis convaincu, même si le texte le dit pas, je suis convaincu que Philémon a pardonné à Onésime. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un plein d'amour, comme on l'a vu dans notre épître. Alors, je suis convaincu qu'il a accueilli chez lui comme un frère, parce qu'il était devenu son frère en Christ. Je suis convaincu qu'il l'a pardonné. La semaine dernière, j'ai partagé une histoire, celle de Corrie ten Boom. Donc, une dame près d'Harlem, donc en Hollande, qui a sauvé beaucoup de juifs et après qui a été dénoncée, qui est partie dans un camp de concentration, qui a perdu son père en prison, sa sœur dans un camp de concentration. Et elle, à son retour de ce camp, va pardonner. Même à la personne qu'il avait dénoncée à la police. alors que sa famille avait péri en prison et dans un camp de concentration. Moi, je trouve que c'est tellement fort, ce pardon-là. C'est un exemple pour nous tous. Elle a subi quelque chose bien plus grave qu'une perte de 30 000 euros. Elle a perdu des membres de sa famille. Et pourtant, elle va annoncer partout le message du pardon entre les peuples. Voilà. Je trouve que c'est très exemplaire pour nous. Voilà, la plus belle réconciliation que j'ai jamais vécue, c'est avec mon père. Parce que pendant des années, c'est vrai qu'avec mon père, on ne s'entendait pas. Ouais. Et après, quand je suis devenu chrétien, ça a été radicalement différent. Vraiment, on a oublié nos différends du passé, on s'est vraiment réconcilié. Et je me souviens d'une phrase que j'ai dit à mon père, « Papa, une fois je t'ai dit que tu n'étais pas un père exemplaire, et ce n'est pas vrai, parce que tu l'es. » Et moi, je pense que c'est voilà, la plus belle réconciliation que j'ai jamais vécue. C'est avec mon père et la paix qu'on a pu vivre ensemble et qu'on vit maintenant. Voilà, on a oublié, parce que j'étais aussi un ado compliqué, ça faut l'avouer. Mais eux aussi, ils m'ont vraiment bien accueilli. Et bien pardonner tout ce que j'avais pu faire contre eux. C'est sûr que c'est dur de pardonner. Ça fait mal. Il y a des blessures qui font mal. Heureusement, nous n'avons pas apporté tout ça tout seul. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Du repos, la tranquillité d'esprit, la paix en lui, malgré ce qu'on a pu vivre. Déposons notre fardeau à Jésus. Lui, il veut le porter. Des fois, c'est dur et on se dit, bon, j'arriverai, c'est vraiment trop, j'arriverai jamais. Alors des fois, il faut juste faire un pas en avant. Juste essayer. Seigneur, donne-moi envie de pardonner. Déjà, commencez là. Et là, déjà, on ouvre une brèche, on ouvre la porte au Saint-Esprit qui peut agir dans nos vies. Vous savez, Dieu est tout puissant. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a fait revenir Jésus-Christ d'entre les morts, qui l'a fait revenir de la tombe? Alors, Dieu peut nous aider aussi. Changer nos cœurs et nous aider à pardonner. Donc, quand c'est dur, commençons par là. Seigneur, aide-nous à pardonner. Essayons de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est écrit que voilà, c'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui juge tout le monde. Ne soyons pas nous-mêmes les juges. Il y a un verset qui dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il met sa gloire à oublier les offenses. Donc si on veut être sage, il faut oublier le mal qu'on a pu nous faire. Et ne plus y penser, ne pas le faire revenir. En fait, le pardon, c'est même un commandement du Seigneur. Comme c'est écrit en Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Donc en fait, si on veut rester en communion avec Dieu, il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus, vraiment, c'est un bon exemple pour nous. Jésus qui a été insulté, on lui a craché dessus, il a été cloué à la croix. Ses mains et ses pieds ont été percés. Pourtant, sur la croix, quand il agonisait, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a aimé ses ennemis. En Luc 6, 35, il est écrit « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Enfin, ça, je nous dis d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. Alors ce matin, je vais vous lancer un défi. Pensez à quelqu'un qui vous déteste. Pensez à quelqu'un qui vous déteste. Et puis pensez à quelque chose de bien que vous pouvez lui faire. Et puis quand vous l'aurez fait, faites-le. Faites du bien à vos ennemis. Comme l'a fait notre Seigneur Jésus. Le refus de pardonner, ça tue un homme. Alors j'ai amené une pierre. J'ai amené une pierre. Pourquoi j'ai amené une pierre? C'est comme si Sylvain, il a une pierre, il est assis là. Et tout d'un coup, il se dit, Luc, j'en ai marre comment tu prêches. Il prend la pierre, il me la balance. Il me la balance. Je saigne. J'ai mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai le nez qui saigne. Et puis là, j'ai un choix. Est-ce que je vais ramasser la pierre, la nettoyer, lui rendre et lui dire « Bon, c'est bon, je t'en veux pas ?» Est-ce que je dis, chaque fois que je vais penser à Sylvain, à ce qu'il a fait, je vais dire « Ce Sylvain, alors, ce Sylvain !» Voilà mon choix. Soit j'oublie, soit à chaque fois que je pense à ce qu'il a fait, je ressasse ça dans ma tête. Encore. Encore et encore. Et je pense, ah, celui-ci m'a fait du mal. Ah, celui-ci m'a fait du mal. Celui-ci m'a fait du mal. Et c'est comme si, après, on porte ces pierres sur nous. Toutes ces blessures qu'on a reçues. Et après, on n'arrive plus à marcher, c'est trop lourd. Dieu, il veut alléger notre fardeau. Guérir toutes ces blessures qu'on a pu recevoir. Vous savez, il y a des gens qui... C'est vrai qu'ils ont eu toutes ces blessures, mais ils n'en sont jamais guéris. Et puis, ils sont toujours là à raconter tout le mal qu'on leur a fait. Et franchement, c'est pas marrant pour eux. Je suis sûr qu'ils ne vivent pas dans la joie. Et les autres qui les entourent, c'est pas marrant pour eux non plus. On n'a pas besoin d'avoir ces fardeaux pour le reste de notre vie. Laissons partir cette amertume. Laissons-la partir. Dieu veut nous guérir et nous accorder sa paix. Le dernier aspect, c'est réconcilier les autres. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette épître, c'est comment l'évangile est montré dans cette épître. On le voit. On voit par exemple quelqu'un, Philémon. On peut peut-être comparer à Dieu. Philémon qui a été offensé, il y a quelque chose, un tort qui lui a été fait. On voit Onésime, donc la personne coupable, la personne qui a fait du mal, qui a offensé son maître. Donc on peut le comparer au pécheur que nous sommes devant Dieu, qui est tout puissant, nous avons offensé Dieu. Et nous voyons médiateur, Paul, à l'image de Jésus-Christ. Paul qui essaye de mettre les gens ensemble, de les réconcilier. Comme Jésus qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Alors que nous ne pouvons rien faire, Onésime n'avait aucun pouvoir, n'avait pas d'argent, et bien Dieu nous a accordé sa grâce, alors que nous n'avons rien à lui apporter. Comme Paul, quand on réconcilie les autres ensemble, on ressemble à Jésus-Christ. Et vraiment, on montre cette image de l'Évangile. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, comme il est écrit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En fait, c'est notre travail. Dieu nous appelle à réconcilier les hommes entre eux. Donc on ne peut pas être indifférent, c'est sûr, quand les relations autour de nous sont brisées et que les gens sont remplis d'amertume et de colère. On doit pousser les gens vers le pardon et la réconciliation. Et dès qu'on voit quelqu'un, peut-être, qui en veut à quelqu'un d'autre et qui nous raconte plein de choses mauvaises sur elle, si on voit que ce n'est pas fondé, on peut lui dire « Mais t'es sûr de ce que tu dis, là ?» Déjà, on peut limiter, on va dire, peut-être les ragots. Si vraiment la personne a fait du tort, ouais, et qu'elle dit des choses mal sur elle, ben, on n'est pas obligé d'alimenter la flamme. Tout simplement, voilà. On n'est pas obligé d'en rajouter. N'en rajoutons pas. En fait, dans notre société individualiste, on entend souvent c'est son problème, c'est pas le mien. En fait, si ça l'est, c'est notre travail qui nous a été donné par Dieu. À nous d'être des artisans de paix, comme l'a été Philémon, comme c'est écrit, et de travailler à guérir les cœurs brisés par l'amertume et la colère. Alors ce matin, vraiment, appliquons-nous à résoudre les conflits qu'on peut avoir autour de nous. Voilà. Que le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux et à travailler pour la réconciliation. Donc plusieurs choses qu'on a vues dans cette épître. Donc, cette histoire avec Philémon, donc Onésime qui lui a fait du tort. Puis, je pense que vous avez, que vous souvenez de ce que j'ai dit. Donc, trois choses en application. Dieu nous demande de demander pardon que nous avons fait du tort, d'accorder le pardon à ceux qui nous ont fait du mal et d'intervenir dans la vie des gens afin de les réconcilier. Et j'aimerais finir avec la bénédiction qu'on trouve dans le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tiens, c'est beau ce verset dans cet épître. Que la grâce, que la force de Dieu soit avec vous, avec nous, pour nous aider à pardonner. Que la paix soit avec nous. Cette paix qui vient de Dieu et qui nous aide à ne pas garder d'amertume. J'aimerais prier ensemble pour finir. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Reconnaissons des fois d'avoir été blessé, des fois d'avoir mal réagi, d'avoir gardé de l'amertume. Mais ce qu'on veut plus que tout, Seigneur, c'est aimer, faire ta volonté, suivre tes commandements. Seigneur, on sait que cette amertume, c'est comme une pierre qui est trop lourde à porter. On la veut plus, Seigneur. Et je te prie au nom de Jésus de nous libérer de l'amertume, de la colère, et de mettre en nous ta paix. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, nous te supplions de nous aider à pardonner et à faire le bien à ceux qui nous font du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen.